Bonjour, nous sommes le lundi 1er juillet, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et même en été, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Tous les 15 jours, La Relève vous propose de rencontrer pendant 30 minutes des artistes d'aujourd'hui venus de tous les horizons. Ils préparent demain. Aujourd'hui, on va parler d'amour avec une musicienne et un photographe. Rupert Pumpkin et Owen... Oh là, je ne sais pas dire votre nom, pardon. Owen Kim, bonjour.
Owen Kim.
Owen Kim, bonjour. Vous êtes l'une interprète et compositrice, on ne dit pas chanteuse ?
Aussi.
Je peux dire chanteuse, ouais, ça ne vous vexe pas. Et l'autre est photographe et vous avez créé ensemble une œuvre hybride intitulée Digital After Love. On va en reparler un peu plus tard. Mais pour commencer, j'avais envie de revenir sur vos parcours respectifs avant même de vous donner la parole à l'un et à l'autre. J'ai envie de faire un petit jeu. Vous, Rupert Pumpkin, comment vous définiriez le travail de Owen ? Je ne s'étais pas préparé, c'était coquin, je suis coquin.
Alors, non, c'est un artiste protéiforme qui s'intéresse à plein de choses, donc qui commençait par la musique, si je ne me trompe pas, et puis l'image sous la forme de photos, mais aussi de films.
Il est classique, il est baroque, comment vous définiriez son art ?
Ah non, je peux pas faire ça.
Ah, en un mot, c'est trop dur.
Et je pense pas qu'il y en a peut-être pas
case,
justement. Hein. Il est hors case parce que c'est une expérimentation à chaque fois. J'ai l'impression que
c'est un joli compliment.
Il a fait des choses en photo qui sont très proches de la rue, très réalistes. Et puis aussi parallèlement à ça, des choses où c'est plutôt une matière comme picturale qui est travaillée comme une œuvre, comme une peinture. Donc
alors vous avez eu de la chance, vous avez pu un peu réfléchir. Comment vous définiriez la musique de votre partenaire de ce projet ?
C'est plus simple pour moi. Je pense que c'est quand même au départ de la chanson qu'on mettrait à la FNAC dans le bac des indépendants. Ensuite, il y a particulièrement dans le projet qu'on a fait ensemble un aspect assez expérimental. Qui vient aussi du fait qu'elle est une artiste protéiforme, qui est comédienne, qui écrit, qui a fait des documentaires.
Vous êtes deux hors cadre, hein, je crois, on peut le dire.
Mais je pense que c'est ça qui nous a réunis pour ce projet, c'est que on brassait large tous les deux, ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'atomes crochus, voilà.
Owen Kim, si on va sur le site Myop, alors je dis sans e.fr pour nos auditeurs qui voudraient y aller, donc myop.fr, regardez vos photos. Alors on découvre justement ce que disait à l'instant Rupert, on découvre à la fois des photos quasi documentaires, beaucoup de noir et blanc, des gens qui ont des gueules, puis à côté de ça il y a des choses beaucoup plus abstraites. Bon, il y a une série de portraits que j'adorais, les portraits inquiets. Alors comment vous définiriez-vous votre travail maintenant ? C'est à votre tour de parler de vous.
Je pense que c'est un travail qui a toujours une base documentaire, en tout cas, c'est une photographie du réel. Ensuite, c'est vrai qu'à chaque nouveau travail que je fais, j'essaie de trouver une forme spécifique. Et ce qui m'intéresse dans la démarche de chaque projet, c'est de trouver justement une forme nouvelle avec laquelle expérimenter. Donc,
qu'est-ce qui vous a intéressé, par exemple, dans cette série de portraits inquiets ?
Je ne
sais pas comment les expliquer, si on peut expliquer à la radio des photos, c'est ce qui est toujours le plus dur. Des photos un peu tremblées, avec des éléments en double, il y a du flou, il y a du net, c'est des portraits.
Voilà, c'est des portraits qui, à la base, sont des portraits que j'essayais de faire, où j'essayais de capter un moment de relâchement, d'intériorité, de tension. Et puis, donc ça, c'est vraiment un travail de portraitiste, photographe assez classique. Et puis, par-dessus, c'est vrai que je voulais faire un travail qui s'inspire de la peinture que j'aime bien, que ça soit de Manet jusqu'à de Kooning, on va dire, donc avec des superpositions, des choses un peu...
Un peu Bacon, là, même. Il y a certains...
Ouais, c'est Bacon. Vrai, il y en a un ou deux qui sont un peu Francis.
Et le titre, parce que moi c'est le titre, j'adore en plus le titre, Portrait inquiet. C'est quoi l'inquiétude ? C'est dans l'étrangeté ?
Ouais, c'est dans... Je pense c'est d'abord dans ce moment que j'essayais de capter, parce que dans le portrait, le plus souvent, les gens essayent d'abord d'imposer leur image qu'ils veulent montrer au monde. Et ce qui est marrant en tant que photographe, c'est d'arriver à capter les interstices de cette image-là. Non, ensuite, bon, je pense que chaque photographe a sans doute les choses qu'il recherche. Moi, j'ai un penchant pour ces choses-là, l'étrangeté, l'absence, l'inquiétude. Et donc, pour être un peu plus technique, par exemple, c'est quand les gens savent pas qu'ils sont en train d'être pris en photo qu'on chope ces moments-là. On dit, par exemple... je fais des tests de lumière, des trucs comme ça.
C'est comme moi, je fais croire qu'on règle les micros, mais en fait, l'émission a commencé.
Ouais. Ou alors, parfois, je fais faire des pauses un peu étranges. Et puis, du coup, dès qu'ils se relâchent, on a quelques secondes pour...
Alors, puisqu'on parle d'étrangeté, Rupert Pupkin, pourquoi vous appelez-vous Rupert alors que vous êtes une femme qui chante, pardon, comme disait Barbara ?
En fait, Rupert Pupkin, c'est un nom qui m'est, je dirais, un peu tombé dessus... à l'époque où j'ai commencé la musique, parce que j'ai commencé un peu tard, et j'étais en train d'écrire un scénario avec Bruno Merle, le scénario du film Héros. Et pour ce film, on s'est inspiré d'un film de Scorsese qui s'appelle King of Comedy, dont le personnage principal, enfin c'est pas... on s'est inspiré, c'était un petit peu un film qu'on avait dans la tête en écrivant, puisque c'est quelqu'un qui passe à l'acte, qui fait un enlèvement... Donc dans le film de Scorsese, qui est une des comédies de Scorsese assez acide et très très drôle, le personnage principal interprété par De Niro s'appelle Rupert Pupkin, et c'est une sorte de loser magnifique. Et voilà, ça m'a inspirée, moi, pour commencer un projet musical. Maintenant c'est resté ça, et c'est vrai que ça... Ce qui est intéressant par rapport à mon parcours, c'est aussi que quelque part je viens de l'image aussi, puisque j'ai commencé à travailler comme actrice et réalisatrice. Le cinéma, c'est vraiment, ça fait partie de mon écriture aussi, de mon imaginaire. Et pour arriver à la musique, du coup, c'était assez cohérent.
Qu'est-ce qui vous a amené à la musique? C'est parce qu'il y avait quelque chose, vous aviez besoin d'une dimension supplémentaire? C'est la question psy à deux balles.
Non, c'est plutôt pourquoi j'ai commencé aussi tard. C'est que j'avais pas de formation, j'avais pas de légitimité. La musique, ça s'apprend. Pour moi, j'étais entourée de musiciens qui étaient très, très, très doués.
Pourtant, vous avez une voix, rien qu'à vous écouter. On se doute que vous devez chanter magnifiquement bien. D'ailleurs, on va vous écouter un peu. Mais allez-y.
Ouais, enfin voilà, non, mais donc voilà, toutes les choses que je les faisais un peu par pulsion. Et la musique, j'ai mis du temps à y aller parce que je me sentais moins légitime, je pense.
C'est bizarre parce qu'on pourrait justement imaginer au contraire que la musique, c'est quelque chose de très spontané. Et vous avez quelque chose de très spontané dans votre manière de chanter. On vous écoute un peu. Is it your voice that vibrates inside me? Is it your eyes that fumble and fondle? To be sure, 'cause I've been drowned elfin, feeling secure when my voice roughens. I need some air and you seem so light, but before we share you need to know. On écoute un extrait justement de l'installation, évidemment, Digital After Love, voilà, j'avais oublié le nom. Et vous pouvez nous expliquer à quoi correspond ce moment? Là, ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit en même temps?
Alors, ce qu'on entend, en fait, c'est la première chanson, le premier morceau qui raconte la rencontre amoureuse. Puisque, pour resituer un petit peu cette œuvre, c'est...
Donc une œuvre que vous avez fait à deux. Hein,
qu'on a fait vraiment à quatre mains. Sous,
et à une voix.
Dans une... Même pas, on a la voix de Ouad. Dans le... Mais en fait, c'était pour répondre à un appel à projet donc qu'on a gagné de la Fondation Swiss Life. Et on a voulu travailler sur les ruines numériques. Donc l'idée de Digital After Love, c'est qu'on... on retrouve un téléphone dans lequel il y a des traces, des messages, des images, des vidéos, des sons, des messages téléphoniques, enfin plein de choses qui sont dans les téléphones de tout un chacun, mais qui sont altérées, qui sont abîmées, qui sont... Et à travers cette recherche...
Parler de résidus d'amour, j'ai trouvé ça très joli.
Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on s'est rassemblés aussi, nous, dans notre hybridation avec Ohan. C'est qu'on décrypte ces traces et on en fait une piste d'enquête, en fait, sur une histoire d'amour.
Alors, justement, en écoutant là, à l'instant, et en repensant à vos photos, je me disais que le point commun que vous aviez tous les deux, c'est que vous aviez aussi des univers très forts. Quoi. Derrière la chanson, on voit qu'il y a tout un univers construit avec des bruits, de la musique. C'est pas juste une chansonnette pour passer à la radio, même si ça passe très bien. Vous avez ça tous les deux en commun. Vous vous connaissiez avant ce projet? Vous êtes rencontrés comment, même si on ne fait pas de la presse people ici, donc tout ce qui vous concerne ne nous regarde pas, mais artistiquement, vous êtes rencontrés comment?
C'est Swiss Life qui avait organisé une rencontre.
Donc vous ne vous connaissiez pas du tout avant le prix, ça se passe comment ce prix?
Là c'était un speed dating je crois.
Non mais c'est
vraiment ça, c'est
qu'il
y avait, ouais. Ils avaient choisi 15 photographes, 15 musiciens et il fallait que ça matche l'un ou l'autre. Enfin, on avait très très peu de temps pour se choisir en fait, c'était une soirée.
Et donc, vous ne connaissiez pas ni l'un ni l'autre le travail de l'autre au moment où...
Enfin, si avant la soirée, il nous avait envoyé les dossiers de tous les candidats. Et donc, on pouvait se familiariser avec le travail des uns et des autres.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble?
Moi, j'étais très proche de son univers. J'ai aussi un groupe de rock qui est vraiment dans la même veine. Et puis, en discutant avec elle, on s'est aperçu qu'on avait plein de choses en commun.
Ouais, moi, c'est en regardant les photos de Ohan, parmi tous les autres photographes, j'ai eu un flash artistique très fort. Donc, du coup, après, j'ai découvert que c'était un musicien aussi et que j'adorais sa musique. Donc, ça paraissait assez évident, mais... N'empêche qu'on aurait pu se rater aussi.
Et oui, justement, et donc le prix Swiss Life vous met en contact l'un et l'autre. Vous devez faire une œuvre ensemble. Comment vous avez l'idée de cette œuvre-là sur les restes d'un amour, sur les résidus d'amour? Qui a eu l'idée? Comment on travaille à deux sur ça?
Ils avaient proposé un thème qui était le rêve des formes, qui est quand même assez vaste.
Parce que c'était, pour replacer dans le contexte, c'était... Alain Fleischer, le directeur du Frénois, qui voulait quelque chose d'un peu expérimental.
Ouais, c'est un concours, hein. Enfin, c'est un prix qui est expérimental par définition.
En tout cas, bah oui, déjà, ça va pas de soi d'associer de la photo et de la musique. Mais bon, ça marche.
Vous auriez... Allez-y.
Non, mais c'est vrai aussi que dans les prix précédents, les musiciens, par exemple, qui avaient été choisis, c'était des musiciens de musique contemporaine. C'était pas des gens qui font du rock comme moi. Et du coup, c'est vrai que là, nous, on a proposé un endroit qui nous ressemble, mais qui était à la fois expérimental et à la fois accessible dans un endroit narratif, puisqu'il y a une histoire d'amour. C'est quand même la base de toute histoire. Enfin, c'est assez simple à comprendre. Et une façon dont on l'a abordé, c'est aussi un téléphone portable. C'est quelque chose que tout le monde peut, dans lequel tout le monde peut s'identifier.
Ce qui est marrant, c'est de raconter une histoire d'amour alors que vous êtes un couple artistique.
Oui, mais d'ailleurs, les photos. Enfin, il y a aussi. On revient à cette histoire de un peu documentaire. Moi, j'ai fait des documentaires pendant 10 ans. Ouais. Ohan fait des documentaires photos et là, il réalise des films maintenant documentaires. Et tu peux peut-être parler aussi de la source des photos.
Oui, en fait, toutes les photos sont des photos de ma femme. Catherine, qui sont des photos que j'ai commencé à prendre au début de notre relation. Donc c'est réellement aussi une documentation d'une passion amoureuse.
Tout à l'heure, je vous demandais, on va passer un disque et puis je vous pose une question après.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire.
C'est une reprise d'un des multiples chefs-d'œuvre du grand Nino Ferrer, La Roi Madureira, repris par le collectif Bon Entendeur.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est La Relève avec Rupert Pupkin et Wan Kim qui sont tous les deux réalisés. Un projet qu'on pouvait voir encore il y a peu à la Philharmonie de Paris, c'est fini, tant pis pour tout le monde, mais on a toujours un livre chez Actes Sud, puisque c'est aussi une des particularités de ce prix, c'est à la fois une exposition, une installation et un livre. Est-ce qu'on est obligé de réfléchir différemment quand on doit faire les deux à la fois ?
Oui, c'est un livre-disque en fait, où il y a les deux supports qui se retrouvent.
Vous avez réfléchi, vous y avez pensé au fait qu'il y avait deux supports ou
oui,
vous avez
tout
fait tout à fait spontanément ?
C'est pas le même travail.
Il y a même trois supports. Vu qu'on est en train de développer.
Ah, allez-y, allez-y, on allait en parler plus tard, mais allez-y, vous pouvez. Hein.
Non, on
vous êtes maître
tard,
ici,
mais
là, non,
mais on développe aussi une forme concert-performance.
Oui, pour le faire vivre encore et pour continuer, vous allez d'ailleurs le jouer. Alors, puisqu'on en parle, on y va tout de suite. Le 1er juillet, je sais que vous serez à Arles mais j'ai pas bien noté la date,
le
vendredi
4...
5 juillet, je crois.
Alors, on y est.
J'ai pas la bonne date ?
Si, le 5 juillet, pendant la nuit de l'année.
C'est ça.
On a une vidéo du projet qui a été conçue spécialement pour cet événement, qui sera donc diffusé pendant la nuit de l'année. C'est un événement qui a lieu toute la nuit. Je ne sais plus dans quel quartier d'Arles.
On mettra ça sur Internet.
Et sinon,
vous allez, allez-y, oui, allez-y.
Le 4 juillet, donc, on fait un concert performance à Arles, toujours, du même projet.
Et ça, si je ne me trompe pas, c'est à l'Open Café, 5 rue du Cloître.
5 rue du Cloître.
Ah,
c'est à Myop in Arles. C'est la, là où expose l'agence Myop, dont je fais partie, du 1er au 6 juillet.
Moi, je le dis à nos auditeurs, ça vaut le coup d'aller à Arles, hein, dans quelques jours, pour non seulement vous voir et pour retrouver toute l'agitation et comment dire, toute l'émulation autour de la photographie qu'on retrouve à Arles tous les ans. N'hésitez pas à y aller si vous aimez la photo. Si on revient à Digital Afterworld, qui est aussi sous-titré Que restera-t-il de nos amours, c'est une chanson de traînée. Et en préparant cette émission, j'ai eu cette idée un peu bête d'aller voir les paroles de cette chanson et il dit « Que reste-t-il de ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse ?» Alors je me suis dit, quand même, c'est un hasard qu'on parle de photos dans cette chanson-là.
Non, mais justement, nous, on s'est vachement inspiré de cette histoire de vieux albums, photos de famille, ou ceux qu'on voit dans les brocantes, où on essaye de reconstituer des histoires. Et donc, bon, et à l'époque de Traîner, il y avait des photos, déjà depuis un certain temps, mais pas grand-chose d'autre pour se souvenir. Et nous, on a aujourd'hui une quantité d'éléments supplémentaires, en plus de ces vieux albums, donc c'est la même démarche, je pense, par rapport aux souvenirs. Ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui va rester de ces traces numériques qui sont toutes en train de s'effacer parce que la disquette n'existe plus, le machin n'existe plus, le disque dur, on ne sait pas combien de temps. Puis on a l'impression que les choses vont se déliter et qu'on avait une photo. Quand on avait une photo, on se dit, bah, finalement, une vieille photo, ça dure plus longtemps qu'une clé USB. Quoi.
Je me demandais justement, est-ce que vous êtes nostalgique de cette nostalgie de l'époque ? Traîner, c'est une chanson nostalgique. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la nostalgie de cette époque-là ? C'est un peu une question bizarre.
Moi, personnellement, je n'aime pas spécialement Traîner.
D'accord.
Ce qu'il représente de cette France-là. Là, c'est vraiment beaucoup plus poétique, cette phrase. Que restera-t-il de nos amours ? Pour nous, c'était plutôt quelque chose qui va dans le futur que dans le passé. Enfin, je crois.
Owen Kim ?
Oui, ensuite, c'est vrai que dans le projet, il y a une réflexion sur l'oubli. Donc, une espèce de nostalgie au futur antérieur.
on se perd dans les temps là. Mais c'est intéressant justement parce que la mémoire de demain, c'est l'oubli d'aujourd'hui quelque part. On est dans un continuum. Vous êtes aussi, donc on l'a suffisamment dit, photographe et musicien et de haute qualité. Ce sont deux arts qui ont été bouleversés par le numérique. Et j'avais envie justement de vous demander ça. Comment est-ce que vous interrogez sur le devenir de vos œuvres à l'ère numérique ? On ne retrouvera pas un jour par hasard un de vos disques. Enfin, quoi que là, s'il y a un CD, ça devient de plus en plus rare. Ou vous, peut-être, on retrouvera une carte flash qu'on met dans un appareil photo. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous angoisse l'un et l'autre ?
Bah, faudra surtout que les extraterrestres qui retrouvent ça et retrouvent les lecteurs.
Non, mais ils ont des ondes pour décrypter.
Vous repères que c'est quelque chose.
Non, pas du tout, parce que je n'y pense pas du tout. Je suis vraiment dans le présent. Donc,
vous faites un art plus immédiat, vous,
j'ai
la
pas,
musique
je fais de la musique, j'écris, je fais des spectacles qui sont du coup plus éphémères. Je travaille aussi sur des films. Donc. La chose qui m'importe, c'est que ça soit reçu.
Et en plus,
fait.
On fait de la radio, ce qui...
ce qui est encore très éphémère aussi. Non, mais c'est qu'il y a un impact, c'est que ça soit reçu. Après, la durée d'une œuvre d'un artiste, c'est le temps dira si les choses restent ou pas dans la mémoire des gens ou dans le désir des gens. Mais sur le moment, il faut que ça puisse être transmis. Donc, il y a besoin de support, mais il y a aussi...
Ça veut dire, par exemple, que vous gardez tout vous gardez des traces de tout chez vous, l'un et l'autre. Régulièrement, vous les remettez. Quand vous avez un nouvel ordinateur, vous faites bien attention à tout garder. Ou vous êtes comme tout le monde, vous avez déjà des œufs perdus.
Moi, j'ai perdu des choses, mais...
C'est sans gravité, vous vivez comment ?
Sur le moment, parfois, on regrette. Mais bon, ça arrive aussi, ça m'est arrivé de perdre des rouleaux négatifs avant de les avoir développés.
Vous voulez dire que même quand c'était matériel, on pouvait perdre ?
Ouais, bah oui, on peut perdre les négatifs et les tirages. Et
on peut retrouver aussi. Ça, c'est pas mal.
Ah, ça, c'est magnifique ce que vous dites. C'est vrai qu'il n'y a pas rien de le
quelquefois.
Plus... Il n'y a pas de plus grand bonheur que de retrouver quelque chose qu'on croyait perdu.
Retrouver un texte et le faire sortir de la poussière. Enfin, c'est assez chouette. Ouais, mmh. Ça arrive.
Vous avez entendu là récemment le Universal dont on a appris qu'ils avaient perdu des millions de masters là, d'enregistrements, notamment d'Aretha Franklin adolescente, des choses. Pour... Tout ça, on voit bien qu'il y a la mémoire finalement. On a beau vouloir la garder, il y a aussi le hasard qui trie. Ça inspire votre travail, ce travail-là qui reste...
Le travail des traces, de toute façon, il est passionnant parce que les traces, aujourd'hui, on est vraiment dans cette problématique-là qui n'est pas que... pas les traces artistiques, mais les traces de tout. C'est-à-dire l'activité humaine impacte... voilà. Donc, moi, je trouve que dans le projet Digital After Love, ça m'a quelque part assez bouleversée de plonger là-dedans parce qu'il y avait plein d'entrées possibles. Mais cette entrée-là des traces... il n'y a pas que ce projet-là qui met en jeu ça dans mon travail, c'est-à-dire je trouve qu'on ne peut pas y échapper aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau de la planète, enfin de tout quoi.
Vous, Anne-Kim, comment vous avez imaginé ce qui pourrait rester d'une photo dans le futur? Comment vous avez travaillé sur ça?
J'ai travaillé le pixel. C'est assez vite, j'ai eu envie d'expérimenter avec un genre un peu vernaculaire qu'on appelle le glitch art.
Ah, vous allez m'apprendre ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est le glitch art.
Ça consiste partir du fichier numérique, c'est-à-dire détériorer. Au départ, c'est de façon purement informatique, en altérant le code d'un fichier, par exemple. Y a des gens qui font ça de façon très quasi scientifique pour expérimenter sur la détérioration des images.
Comme on aurait pu s'amuser à faire au moment du développement, à surexposer des photos ou à les rendre floues ou à les...
Oui,
c'est-à-dire à les rater, à des choses qui étaient réussies.
Voilà, mais avec cette spécificité du numérique qui est qu'une image ou un son ne sont jamais que des séries de chiffres ordonnées je ne sais comment. Et donc ce genre où il y a beaucoup d'expérimentation et pas tellement, à ma connaissance, a pas tellement été... développé par des photographes ou des artistes pas envie de dire sérieux, mais
vous voulez dire que c'est un peu un truc de bidouilleur, de gens qui s'amusent?
Voilà.
Ah, et sérieux, oui, d'accord.
Vous, justement, pareil pour la musique, vous avez eu cette même approche?
Oui, alors justement, ce qui était intéressant, c'est de rendre ça organique pour moi. C'est-à-dire, je suis pas une geek, je suis pas quelqu'un qui suit dans une manipulation numérique très développée comme peuvent être d'autres musiciens, parce que ça se développe beaucoup dans la musique. Mais j'y suis entrée par mon endroit en bidouillant, en essayant de retraduire des effets qui sont des effets numériques par un travail de sculpture du son, quoi. Donc en fait, ça donne des moments qui sont assez expérimentaux. Il y a des moments où se mélangent des altérations sonores avec des souvenirs sonores, avec plutôt comme ça pourrait se passer dans un cerveau.
Je rappelle que nous sommes le lundi 1er juillet, qu'à partir de ce matin, donc le quatrième prix est lancé. Vous allez être, je crois, normalement juré de ce prix. C'est que ça vous amuse maintenant d'être de l'autre côté, d'aller choisir des projets pour le prochain. D'ailleurs, ils seront pris pendant 2 ans, je crois. Le règlement a changé.
Oui.
Ça vous amuse?
Oui, c'est très chouette.
Vous allez être très dur comme juré?
Non, moi ça m'angoisse de devoir choisir, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une vraie, pour des artistes, c'est une vraie chance d'expérimentation, d'exposition, c'est super.
Et vous, Wankim?
Ouais, c'est vrai que moi, au départ, quand on a commencé ce projet, j'étais un peu sceptique sur l'association de la photo et de la musique, et aujourd'hui, je vois que ça a été au contraire une chance de trouver vraiment des formes nouvelles, des associations nouvelles. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai terrain d'exploration relativement vierge, donc je suis plutôt curieux de découvrir des propositions.
En deux secondes, vous avez envie de retravailler ensemble, ou pas ensemble, en tout cas de retravailler avec quelqu'un d'autre. On va pas vous dire forcément que vous avez envie de travailler ensemble, mais est-ce que vous avez envie de retravailler à deux? Ça vous a donné envie de recommencer l'un et l'autre?
Je pense que tous les deux, on fait beaucoup de collaborations.
Ouais, on le faisait déjà. Bien sûr. Puis je suis sûre qu'on retravaillera ensemble. Enfin, je sais pas.
Ok, écoutez, merci beaucoup Rupert Pupkin et Owen Kim d'être venus. Je rappelle qu'on pourra vous voir à Arles, je voudrais pas dire de bêtises, le 4 et le 5 juillet. Puis après, on pourra vous suivre. Je donnerai toutes les informations sur le site internet. Je vois qu'il est l'heure de se quitter. Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà l'épisode 19 de la saison 3. La réalisation était signée par Antonin, la présentation et la préparation par Christophe. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site, la page Facebook. Vous merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, vous restez à l'écoute du programme de Radio Campus Paris. Et nous vous donnons rendez-vous ce soir à 19h pour la matinale. Bon après-midi, au revoir.